Imaginez ce matin de la résurrection. Incroyable jour. Dimanche matin, Marie de Magdala court au tombeau, désespérée, et puis le tombeau est vide. Elle retourne voir les disciples. Les disciples ne comprennent pas. Pierre et Jean courent jusqu'au tombeau. Et là, le tombeau est vide. Ils voient les bandelettes, ils voient le linge qui était sur la tête de Jésus, mais pas le corps. Et puis, Marie de Magdala rencontre Jésus dans le jardin. Et puis, le soir de ce jour, on lit à partir du chapitre 20, verset 19, dans l'évangile de Jean. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour le privilège de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, dans tout ce que la révélation que tu nous as laissée pour qu'on en apprenne à te connaître, pour que nous aussi on puisse croire et qu'on puisse nous aussi avoir la vie véritable, la vie éternelle, le pardon de nos fautes. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que, en ce jour, on peut commémorer l'œuvre de la résurrection, Seigneur, celle qui prouve que la justice de Dieu a été satisfaite, prouve que toi-même, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, le Christ, celui qui devait venir, celui qui seul pouvait payer pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te célébrer, t'élever par Jésus-Christ. Amen. Vous avez déjà imaginé, peut-être, si la résurrection avait lieu aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a. Vous imaginez la chose? Jésus qui rentre dans la pièce et les disciples disent « C'est Jésus !» Hé, hey, Jésus, on fait un selfie. Et là, avec un selfie, on met ça sur Facebook. Et puis là, tout le monde voit Jésus ressuscité. Imaginez Thomas. Lui, il fait partie du groupe Les Disciples de Facebook. Et donc... Il reçoit le message. Il dit quoi? Il dit, c'est trop fort, les gars. Oh là là, on croirait vraiment Jésus. On voit même pas les raccords. Oh, c'est génial! Et puis il aurait liké, et puis il aurait fait suivre. Il n'a pas cru. Il n'aurait pas cru. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, on est capable de faire des montages. Il aurait quand même pas cru. Et vous savez, ça montre quoi? Ça montre que l'incrédulité, c'est pas une affaire d'époque. C'est une affaire de cœur. Peut-être que vous aussi, vous êtes là avec cette histoire de la résurrection. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, vous voyez les implications que ça doit avoir. Si Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, alors il a vraiment payé pour mes fautes. Alors il est vraiment le Fils de Dieu. Alors il doit recevoir véritablement l'adoration de mon cœur et la soumission de mon âme tout entière. Faire plier toute ma volonté à la sienne parce que il est ressuscité, parce qu'il est vivant. On voit bien ici que les disciples ont cru parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et Thomas, lui, il n'arrive pas à croire parce qu'il n'a pas vu. Et nous, on arrive 2000 ans après les faits. Et nous non plus, nous ne verrons pas la preuve physique de la résurrection de Jésus. Et du coup, les difficultés pour croire sont réelles. On pourrait dire tous, on n'a jamais vu un mort ressuscité. Parfois, on a un regard condescendant sur nos ancêtres du premier siècle. On pense qu'ils étaient crédules, qu'ils étaient superstitieux, qu'ils n'avaient aucun mal à croire aux choses surnaturelles. On imagine bien que lorsque un ange apparaissait aux femmes, là, comme le premier jour de la résurrection, leur réaction, c'était « Oh, bonjour l'ange !» Qu'est-ce que tu vas nous annoncer aujourd'hui? Mais nous, on n'est pas crédules, nous. Nous, on est logique. Nous sommes rationnels. Nous sommes scientifiques. Nous voulons des preuves empiriques. N'est-ce pas arrogant? Croyez-vous qu'ils n'avaient pas encore observé le caractère définitif et inéluctable de la mort? Croyez-vous que les morts ressuscitaient tous les dimanches à leur époque? Si vous pensez que c'est difficile à croire pour vous aujourd'hui, sachez que ça l'était pour Thomas. Et je vous propose de regarder ce matin les doutes de Thomas. On verra ensuite la confession de Thomas et puis enfin la voix de Thomas. Regardons tout d'abord les doutes. Avoir des doutes, au fond, ça n'est pas une mauvaise chose en soi. Francis Bacon, le philosophe anglais du XVIe siècle, il est appelé le père de l'empirisme, il a dit « Le doute est l'école de la vérité ». Le fait de douter, ça nous pousse à aller chercher, à essayer de comprendre, et puis à essayer de faire la démonstration. Et en fait, il y a deux formes de doute. Il y a un doute qui serait honnête, qui veut examiner, qui veut déduire, et dans lequel le travail de la raison est essentiel. Et puis, il y a un doute qui est malhonnête, qui, au fond, ne veut pas savoir, qui a déjà tiré ses conclusions. Certains ont pensé, par exemple, que Jésus n'était pas vraiment mort. Mais les Juifs, eux, ceux qui l'avaient condamné, ils voulaient vraiment qu'il meure. Et ils se sont véritablement assurés qu'il meure. Ils ont même demandé à ce que l'on brise les jambes des suppliciés, des crucifiés, pour que vraiment ils puissent mourir maintenant. Et Jésus avait déjà rendu l'esprit au Père. Alors ils ont simplement planté une lance dans son côté. Imaginez, Thomas a vu le côté percé, transpercé par la lance. Pour lui, il n'y a pas de doute possible. Jésus est mort. Les clous ont percé ses mains et ses pieds. Imaginons un seul instant que Jésus n'était pas vraiment mort lorsqu'il a été mis au tombeau. Et que finalement, quand on l'a couché dans le tombeau frais, cette fraîcheur du tombeau l'est miraculeusement réveillée de son état comateux, comme certains l'ont imaginé. Pouvez-vous imaginer qu'un tel supplicié, il a été suspendu par les mains et les pieds pendant 6 heures de temps, après avoir littéralement déchiré son corps par le fouet. Imaginez qu'un tel supplicié puisse rouler la pierre avec ses mains percées, ses membres disloqués. Pensez-vous qu'il puisse tenir debout et marcher du jardin jusque dans la ville? Pensez-vous que le même jour, il puisse faire des kilomètres avec les pieds percés, avec les disciples d'Emmaüs, et parler avec eux sans boiter? Thomas, lui, n'y croit pas. Pour lui, Jésus est vraiment mort. Mais le problème, c'est que Jésus est vraiment mort, mais que le tombeau est vide. Et la garde romaine confirme cela. On a lu tout à l'heure dans Matthieu 28, les chefs des Juifs ont soudoyé les soldats pour qu'ils disent que pendant qu'ils dormaient, les disciples de Jésus sont venus voler son corps. Remarquez au passage qu'ils ne dormaient que d'un œil, parce qu'ils ont quand même reconnu les disciples qui volaient le corps. Mais ils ne sont pas intervenus. L'argument est un peu léger. Se peut-il que les disciples aient volé le corps de Jésus? Au fond, quel avantage pour eux de faire croire à une résurrection si Jésus n'est pas ressuscité? Ils vont mourir à cause de ce message. Vous croyez que ils vont le prêcher ce message si Jésus n'est pas ressuscité, s'ils ont volé le corps? Alors, est-ce que les Juifs ou les Romains auraient pu voler le corps de Jésus? Mais le corps absent, c'est soutenir la thèse de la résurrection. Et tout le christianisme repose sur la résurrection du Christ. Non, ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas voler le corps parce que pour eux, pouvoir présenter le corps, c'était la preuve que le christianisme ne tenait pas debout. Pour Thomas, non plus, ça ne peut pas être Jésus. Au verset 25, il dit, si je ne vois de mes yeux les mains du Seigneur marquées par les clous, je ne croirai pas. Jésus avait annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et si Thomas, il voulait croire à la résurrection, il y avait un... Dans son espérance, elle se heurte à sa raison, à sa compréhension. Et au fond, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'époque, les êtres humains ont toujours dû surmonter d'énormes obstacles pour croire l'Évangile. Et peut-être vous-même, ce matin, vous êtes sceptique. Vous connaissez l'histoire. Vous en avez entendu parler. Mais vous avez encore des doutes. Mais pourtant, regardez les faits. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Jésus est vraiment mort et Jésus est vraiment ressuscité. Le tombeau est véritablement vide. Ses propres disciples ne croyaient pas qu'il ressusciterait. Et du coup, ils sont enfermés dans une maison dans la crainte des Juifs. Mais lorsqu'ils retrouvent Thomas, ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Alors, ont-ils menti? Pourquoi le feraient-ils? Qu'ont-ils à gagner à inventer une telle histoire? S'ils ont menti pour pouvoir prêcher que Jésus est ressuscité, quel est le mobile? Le mobile, c'est peut-être l'argent. Ils vont s'enrichir avec un tel message. Mais vous connaissez l'histoire. Ils ont été pourchassés. Ils ont été lapidés, traînés en prison, décapités, exilés, crucifiés pour cette vérité. Seriez-vous prêt à mourir en pleine jeunesse pour un mensonge que vous savez être faux? Non. Alors ont-ils eu une hallucination? Jésus rencontre ses disciples, mais il mange avec eux. Ils peuvent le toucher. Ce n'est pas un esprit dépourvu de corps ni une hallucination, c'est bien lui, celui dont les mains, les pieds, le côté ont été percés. Alors peut-être vous pouvez dire, « Oh, non mais cette histoire, ça n'a pas de sens. C'est stupide, c'est impossible, et vous pouvez tourner le dos. » Mais dans ce cas-là, ce sont des doutes malhonnêtes. C'est une façon, pour beaucoup, d'échapper au travail laborieux de la réflexion. Par contre, vous pouvez avoir des doutes honnêtes dans lesquels vous posez des questions, de vraies questions. Et vous examinez les faits, et vous interrogez les gens, vous interrogez les manuscrits, vous interrogez les sources, et vous cherchez des arguments solides. Quel doute avez-vous? Honnête ou malhonnête? Regardez maintenant la confession de Thomas. Imaginez les disciples. Ils ont pris la fuite lors de l'arrestation de Jésus. Ils l'ont tous abandonné. Pierre même l'a renié par trois fois. Et les premières paroles qu'ils entendent de la bouche de Jésus ressuscité sont « La paix soit avec vous ». Imaginez Thomas. Lui, il a douté, il s'est enfui, il a refusé le témoignage de ses amis, et la première parole qu'il entend de Jésus, c'est « La paix soit avec vous ». Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a acquis la paix. Êtes-vous en paix ce matin? Êtes-vous tranquille dans votre âme? Ou portez-vous le poids terrible de la culpabilité? La culpabilité, c'est la perception, à tort ou à raison, que l'on mérite un châtiment. À tort, lorsqu'on n'est pas coupable, bien sûr. Vous avez déjà vu ça, des enfants qui pensent être responsables du divorce ou de la séparation de leurs parents. Puis disent... On va essayer d'être gentil maintenant, on va essayer de faire des efforts et ils se sentent coupables. Ils ne le sont pas. C'est une mauvaise culpabilité, c'est une fausse culpabilité. On devrait leur expliquer. Mais il y a aussi une vraie culpabilité. Celle qui pèse sur nos cœurs parce qu'on sait qu'on est coupable. On est responsable. Et au fond, tant que le châtiment n'est pas exécuté, la culpabilité demeure. Et la question, c'est comment être affranchi de cette culpabilité, du péché qui mérite la mort? Il faudrait mourir. J'ai lu cette semaine qu'il y a un homme qui était en cavale après avoir fait plusieurs meurtres. Et il s'est donné la mort. On l'a retrouvé pendu. Voyez-vous, vous ne pouvez plus faire face à la culpabilité. Il fallait que le châtiment tombe pour retrouver la paix. Mais si quelqu'un paie à notre place, alors la culpabilité est ôtée. Le poids de la culpabilité est ôté lorsqu'on confesse notre péché et que l'on croit dans le sacrifice de Christ qui a payé, qui a expié, qui a porté le poids de notre péché. Il a subi la mort, le châtiment que méritaient nos crimes. La culpabilité, elle ne part pas avec le temps. La culpabilité, elle ne part pas avec nos efforts, avec nos œuvres, avec notre pratique religieuse. La culpabilité n'est ôtée que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous savons que la faute est payée, que la justice de Dieu est satisfaite parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et quand il s'approche de nous, il nous dit aussi « La paix soit avec vous. La paix est possible par le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Thomas, il a été incrédule. Jésus le sait, et c'est pour ça qu'il lui annonce la paix. Votre cœur est-il libre de la culpabilité? Écoutez la voix du Seigneur qui dit, « La paix soit avec vous. Recevez ma paix. » Et quand Thomas y voit Jésus, l'évidence est là. Il n'ose même pas avancer sa main pour le toucher. Mais à ce moment-là, il cède complètement. Il tombe complètement. Il fait cette confession merveilleuse, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il croit à la résurrection de Jésus. Il accepte les implications de la résurrection de Christ. Il est donc le Seigneur de sa vie. Il est donc son Dieu. Voici ce que ça implique que de croire en Christ. Thomas ne sait pas tout ce que Dieu enverra dans sa vie. Qu'il comprenne ou non les raisons, il est résolu à suivre le Seigneur, à lui faire confiance. Il est son Dieu, il va le suivre. Croire en Jésus, c'est précisément reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et notre Dieu. Jésus n'a jamais trompé ses disciples, ses auditeurs plutôt. Il les invite à calculer le prix pour devenir un disciple. Néanmoins, comme le dit Tim Keller dans un de ses livres, certains souhaitent négocier le coût plutôt que de calculer le prix. Ils sont prêts à renoncer à certaines choses, mais pas au droit de choisir ce à quoi ils doivent renoncer. Comme lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit « Quitte ta terre natale et puis suis-moi ». Et Abraham, il dit « Mais oui, mais où je vais ?» Au fond, quand Abraham dit « Où je vais ?», c'est comme si il disait à Dieu « Dis-moi où je vais et puis après je te dis, d'accord ?» Moi, tu me dis et puis après moi je te dis « Ok, c'est bon, je viens. » Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu demande à Abraham. Il le conduit à ce que Dieu veut qu'Abraham renonce. C'est au droit de déterminer par lui-même la meilleure façon pour lui de vivre. Et Dieu lui dit, je te montrerai plus tard. Et si vous observez la vie d'Abraham, Dieu agit constamment comme ça. Je te montrerai plus tard. Je te montrerai plus tard. Suis-moi. Avance. Je suis ton Seigneur et ton Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de ma vie ? Suis-moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que je vais devoir renoncer à ça? Suis-moi. Mais est-ce que je devrais faire ça? Suis-moi. Comprenez, quand Thomas cède, il cède aussi son cœur, sa volonté. Il dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux, parce que ta décision, c'est la meilleure pour moi. Ta volonté, elle est parfaite. Je veux la suivre. Je ne sais pas tout ce qui m'attend, mais je renonce au droit de décider si j'accomplirai ou non ta volonté. Je veux l'accomplir. Connaissez cette lutte dans votre cœur? Si je crois, voilà ce que ça implique. Vous ne pouvez pas négocier le prix. Vous pouvez juste le considérer. Et si Jésus est vraiment ressuscité, si Jésus est vraiment Dieu, si Jésus est vraiment mort pour vous, alors il règne sur vos cœurs. Cédez-lui votre volonté. Selon la tradition la plus ancienne du IVe siècle, Thomas a annoncé l'évangile aux Parthes et aux Perses, et il serait mort en Perse. D'autres traditions le font apôtre des Indes, où il serait mort en martyr. Thomas, quand il a capitulé, Il a accepté la volonté de Dieu pour sa vie. Et il s'en est jamais repenti. C'était le meilleur pour lui. Vous n'aviez probablement pas imaginé peut-être la maladie dans votre vie, les difficultés de couple, les deuils, les difficultés avec vos enfants, les problèmes matériels. Lorsque vous avez cru en Christ, vous ne pensiez pas à tout cela. Mais si vous lui avez dit « Mon Seigneur est mon Dieu », alors vous avez accepté de vivre selon sa volonté, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et vous savez, pour vivre cette vie-là, il faut beaucoup de courage. Et Jésus ne nous réduit pas le prix. Il nous dit, il faut beaucoup de courage. Mais Jésus ressuscité nous donne le courage. Imaginez les disciples, ils étaient terrorisés. Mais quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils sont partis ensuite dans les rues. Et puis ils ont proclamé « Jésus est ressuscité ». Pierre, qui avait renié par 3 fois, qui avait eu peur d'une servante, il est prêt à livrer sa vie en sacrifice. Quand on livre sa vie, Dieu donne le courage par sa présence. Il est vraiment ressuscité. Alors il se tient à nos côtés, dans les craintes, dans les doutes, dans les combats qu'on a à mener. Il est là. Si il est là, de quoi est-ce que vous pouvez manquer? Est-ce qu'il y aura un problème d'argent? Est-ce qu'il y aura un problème de solitude? Est-ce qu'il y aura... Jésus sera là. Il tiendra ses promesses. Il a déjà prouvé qu'il vous aimait parfaitement à la croix. Et il a montré le plus grand courage qui soit en se livrant à la croix pour vous. Jésus n'est pas notre consultant, vous savez, qui nous prodigue quelques conseils, que nous suivons ou pas. Non, Jésus est le Seigneur de nos vies. Et puis regardons maintenant la voix de Thomas. La question c'est, pourquoi est-ce que Jean prend-il le temps de rapporter un tel récit et des doutes de Thomas, son compagnon d'œuvre? Imaginez la chose. Est-ce que si quelqu'un écrit un livre aujourd'hui et raconte les doutes de Vincent, comment il a eu du mal à croire? Ah, merci, mon frère. Quand en plus ça devient un best-seller que tout le monde lit dans toutes les langues. Pourquoi est-ce que Jean a écrit ce récit? Il le fait parce qu'il sait combien nous sommes lents à croire, comme eux tous. Combien il nous est difficile de fléchir les genoux devant Christ et de confesser que Jésus est notre Seigneur. Jean, il sait, il a le même cœur que nous. Il sait combien nous luttons avec notre raison. Est-ce possible? Comment se peut-il qu'un homme meure mort il y a 2000 ans et paix pour moi aujourd'hui? Il meurt il y a 2000 ans à Jérusalem et ça a un effet pour ma vie aujourd'hui à Toulouse. Comment est-ce possible? Cela est possible si cet homme est Dieu, le Messie que Dieu avait choisi pour nous réconcilier avec lui par sa mort et par sa résurrection. Dans la fin de l'Évangile, versets 30 et 31, il dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus a fait de nombreux autres miracles. Jean, il en a sélectionné 7 dans l'évangile, dans son évangile, qui sont suffisants pour établir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Mais ces miracles, ces signes-là, ils ont lieu dans la première partie de l'évangile de Jean. Mais il dit simplement, au chapitre 20, à la fin du chapitre 20, le dernier verset, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, parce qu'il voulait ajouter l'œuvre par excellence, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. » Et puis il voulait ajouter encore le témoignage de Thomas, la voix de Thomas, pour que nous qui sommes pris par nos doutes, par nos réflexions, on puisse venir après avoir vu, observé, examiné tous ces faits, tous ces signes, qu'on puisse encore voir Jésus-Christ ressuscité, qu'on puisse avoir le témoignage de Thomas et qu'on puisse céder comme Thomas l'a fait. Tout l'évangile tend vers ce but que nous puissions reconnaître que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, l'accès définitif pour le ciel. Thomas a marché avec Jésus. Il atteste chacun de ses miracles rapportés dans l'évangile. Et ce dernier extraordinaire de la résurrection. Il nous ouvre la voie. Tous les doutes que vous pouvez connaître ont trouvé leur réponse chez Thomas, dans une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Nous pouvons vraiment être reconnaissants à Thomas pour ses doutes, parce qu'il a comme épuisé tous nos doutes à nous. Tous ceux que nous pourrions avoir. Et puis il a finalement reconnu Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, son Seigneur. De sorte que nous pouvons nous aussi emprunter la même voie que Thomas et plier nos genoux devant Christ et reconnaître qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur. Jésus dit au verset 29, « Parce que tu as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux. » Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez cette parole à qui elle s'adresse? C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas formidable? Jésus nous parle là. Heureux. Heureux êtes-vous. Le terme c'est béni. Ça signifie pas simplement un état de bonheur, ça signifie que la personne qui croit est acceptée de Dieu. Acceptée de Dieu, reçue par lui. C'est merveilleux. Je termine avec cette dernière pensée. Vous avez remarqué comment Jésus s'adresse à Thomas au verset 27 ? Il emploie exactement les mêmes mots que Thomas a eu 8 jours plus tôt. Thomas avait dit, si je ne mets pas ma main là, dans la marque des clous, si je ne vois pas la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus vient 8 jours plus tard et s'adresse à Thomas et dit, hey, Thomas, avance ici ta main. Mets-la dans la marque de mes clous. Avance ici ta main. Mets-la dans mon côté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus a entendu la conversation. Jésus n'était pas là. Non, il n'était pas visible. Mais il était là. Jésus n'a pas besoin d'être visible pour nous entendre. Jésus n'a pas besoin d'être visible pour être avec nous. Alors, si vous voulez une rencontre personnelle, il vous en donne l'occasion aujourd'hui. En cet instant même, il connaît vos doutes comme il connaissait ceux de Thomas. Et il est prêt à entendre votre confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Et vous pouvez le lui dire maintenant, dans le secret de votre cœur. parce qu'il entend votre prière. Reconnaissez vos troubles, reconnaissez vos doutes, reconnaissez votre culpabilité, reconnaissez que vous avez besoin de sa paix, de son pardon. Reconnaissez que vous aspirez à cette vie éternelle. Reconnaissez que vous aspirez à avoir un maître, un seigneur sur votre vie, qui rend toutes les difficultés que vous pouvez connaître avec un sens, avec un dessein, celui de nous avoir avec lui pour l'éternité, changés à sa ressemblance. Alors que Dieu vous secoue, qu'il vous bénisse, et je vous propose d'avoir un moment de prière où vous pourriez confesser dans votre cœur que Jésus est votre Seigneur, votre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu connais nos cœurs à chacun. Tu sais comment ça nous est difficile de croire. Tu sais que parfois on est assailli par les doutes, parce que les choses nous semblent tellement improbables. Mais Seigneur, on sait qu'à toi, rien n'est impossible. Que si tu es le créateur de tout l'univers, et si tu es notre créateur, alors ça t'est possible, Seigneur, de nous aimer à ce point et d'envoyer ton Fils bien-aimé, le parfait, Jésus le juste, pour mourir sur cette croix à notre place, pour nous apporter la paix, nous délivrer de la culpabilité, du poids de nos péchés, et de nous donner la vie éternelle, celle dont nous avons tellement besoin. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que la chose, elle ne peut pas être autrement. Quand on examine, Seigneur, les faits, les évangiles, il est clair que tu es ressuscité. Et que même si on ne t'a pas vu, on veut se réjouir de ce que ce salut, il est pour nous aujourd'hui. Efficace, nous réjouir ici, à Toulouse, avec l'ensemble, tous les rachetés sur toute la planète, de ce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui nous a aimés, qui nous a pardonnés. Seigneur, reçois la confession de nos bouches, de nos cœurs. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous voulons apprendre à marcher avec toi, à te suivre, quoi qu'il en coûte. Avec la force que tu voudras bien nous donner pour chaque jour. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen.